Bien. Peut-être, comme il vient de vous être dit, on va vous parler pendant un petit moment du département de l'Isère. Il s'agit essentiellement d'un témoignage qui s'inscrit dans l'histoire du département, et je souligne ça parce que tout à l'heure on a évoqué les dispositifs relais et sans doute va-t-on y revenir. Enfin, moi j'y reviendrai un peu dans l'intervention. Et bien entendu que un département, une école, un établissement ne vivent qu'au travers de leur histoire, et donc il faut inscrire ça dans l'histoire, ça me paraît important. Pour introduire et pour vous mettre un peu dans l'ambiance iséroise, je voudrais vous donner deux ou trois éléments, juste pour avoir du contexte. Ce département, c'est un département qui se situe dans un niveau positif de réussite. L'Académie de Grenoble et le département de l'Isère sont toujours, depuis de nombreuses années, en termes de résultats, dans le haut de la liste. Cependant, on observe sur le département un nombre constant d'élèves qui restent à la marge et qui sont essentiellement situés sur des territoires urbains de la politique de la ville, mais également sur des secteurs ruraux ou urbains, comme on dit, puisqu'il y a un certain nombre de villes nouvelles, par exemple, sur le département de l'Isère. De plus, pour vous donner un deuxième élément de contexte, les dernières statistiques nationales relatives au décrochage mettent la région Rhône-Alpes en évidence parce que cette région accentue l'écart qu'il y a au niveau national entre les élèves qui réussissent et ceux qui sont en réelle difficulté scolaire. Donc on est à la fois sur un territoire où on pourrait penser que tout va bien, et à la fois sur un territoire où une frange de population, de façon constante, n'est pas en situation de réussite. Deuxième élément de contexte, on est aussi sur un territoire où les partenariats entre les équipes, pour différentes raisons, sont peu efficaces. Je vais vous donner un exemple, et ce n'est qu'un exemple. La territorialisation des services du Conseil général de l'Isère divise le département en 13 territoires. Chaque territoire est à charge de décliner l'ensemble des services et de la politique du conseil général. Ce qui fait que ça a un avantage, sans doute, la proximité pour la population, pour tous les gens qui ont à bénéficier des services. Mais ça a un inconvénient parce que ça multiplie les intermédiaires qui, vous le savez bien, impriment de leur modalité de fonctionnement la façon dont les choses se déclinent sur le terrain. Voilà, ça c'est des éléments de contexte. Alors après, M. Tellard, ce matin, nous a dit il faut outiller pour articuler l'action locale, l'action académique et l'action nationale. Il faut travailler sur les pratiques et organiser la mutualisation parce que, constat est fait au niveau européen, si j'ai bien compris, mais peut-être plus largement, d'une façon mondiale, que c'est par l'accompagnement des acteurs locaux que les choses bougent. Alors, quand j'ai entendu ça ce matin, moi je me suis mis dans mon contexte départemental. 95 collèges. 964 écoles, 42 lycées. Mais je pourrais aussi vous dire 220 exclusions définitives, ou bien presque 300 signalements pour absentéisme. Je vous avoue que ça donne un peu le vertige. Voilà. Comment articuler, comment travailler sur les pratiques quand vous avez une dimension comme celle-ci. Ceci dit, j'essaye quand même de répondre à la commande. Principe d'action de pilotage, action, outils et leviers. Et puis, je finirai quand même par quelques questions, quelques difficultés. En tous les cas, des dilemmes que je vous livrerai. Ça me fera du bien, on va partager un peu. Voilà. Alors, principe d'action, crois que c'est forcément à plusieurs niveaux, donc je vais essayer de les décliner de façon ordonnée, mais peut-être le premier point, c'est vous dire que quand on est, dit-on, pilote d'ASEL, inspecteur d'académie, on se saisit du prescrit, on se saisit des orientations nationales, et notre premier travail, c'est de faire en sorte qu'elles se déclinent, bien évidemment, sur le terrain, jusqu'au plus près de chacun des élèves. Il y a deux façons de se saisir de ces orientations en termes de pilote, de mon point de vue, mais ce n'est qu'un témoignage. Hein. La première, c'est de relayer, conformément à la circulaire nationale due et à sa déclinaison académique due, vous voudrez bien, etc. Ça, c'est on relaie. Puis il y a une deuxième façon, c'est d'essayer de faire en sorte que cette circulaire, elle soit un peu habitée, qu'elle soit un peu mise à disposition des gens, des acteurs du terrain. Alors, nous, on a plutôt choisi la deuxième solution. C'est-à-dire que même lorsque on pourrait sans doute là polémiquer ou revenir sur des polémiques, des circulaires telles que la circulaire sur l'absentéisme ou la circulaire sur la mise en œuvre des sanctions disciplinaires du 1er septembre 2011 arrive, on peut relayer ou on peut essayer de travailler avec nos interlocuteurs, hein, nous, les chefs d'établissement, les CPE, les enseignants, par rapport aux deux circulaires que je viens d'évoquer, par exemple, hein, selon le public. Essayer de travailler à la lecture, à la compréhension, à la déclinaison, à la fabrication d'outils départementaux qui vont être mis au service de l'ensemble des établissements, par exemple, concernés, puisque j'ai pris des exemples second degré. Pour nous, c'est une modalité de pilotage que de faire en sorte d'aller chercher ce qui peut être au bénéfice d'eux. Pour bien appuyer sur ce point-là, qu'est-ce qu'il y a dans la circulaire sur les sanctions, par exemple, qui fait qu'on ne s'arrête pas forcément à la première ligne disant que toute violence verbale ou physique donne lieu à la mise en œuvre d'un conseil de discipline. On peut s'arrêter là. Cependant, dans la circulaire, il y a beaucoup d'éléments qui insistent sur la nécessité du dialogue, sur la nécessité de l'accompagnement, de la personnalisation que l'on a évoquée plusieurs fois. Et donc, c'est sur ces champs-là que nous avons convoqué les acteurs qui sont les nôtres. Voilà. Un exemple parmi tant d'autres. Deuxième fonction ou deuxième axe de pilotage pour nous, c'est s'inscrire dans l'interministériel et dans le partenariat. Et là aussi, ça donne le vertige. Hein. Monsieur Tellard nous a dit combien de ministères concernés, je ne sais plus. Neuf. Donc vous les déclinez au niveau d'un département et ça devient vite complexe. Par exemple, nous avons la chance sur le département d'avoir à développer un CUX expérimental. Je sais pas, pour dire simple, c'est la mise en synergie des actions éducation nationale et de tous les partenaires qui sont sur un secteur éducation prioritaire. La préfecture, la politique de la ville, les municipalités concernées, comment on fait pour parler ensemble de la même chose, avec les mêmes mots, d'établir une convention, puisque le CUX expérimental, c'est ça, c'est une convention qui engage les différentes parties. Alors que l'on a chacun une histoire, un contenu, des objectifs qui ne se formulent pas de la même façon. Voilà, donc c'est un gros travail. Troisième axe de principe d'action, c'est peut-être celui qui nous est le plus cher à ma collègue et moi, puisque vous avez noté que je suis l'adjointe, donc on pilote à deux, pour ça que je dis nous. C'est comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Les gens, les professionnels, tous les acteurs de l'éducation nationale, mais aussi en dehors de l'éducation nationale. Essayer de faire un état des lieux. Et ainsi, je le reprendrai peut-être tout à l'heure, la recherche et action demandée ou travaillée avec l'IFE, en termes de pilotage ou de principe d'action, pour nous, c'était suite à un constat que vous avez noté par vos remarques tout à l'heure, c'est un déficit de pilotage des dispositifs relais de l'ISER. Notre principe d'action, ça a été de faire ce constat-là et de trouver la modalité avec laquelle, peut-être, on pouvait remobiliser. Donc, bien entendu, les dispositifs isérois, les dispositifs relais isérois, n'ont rien d'innovant. Ils ont simplement, depuis 3 ans, puisqu'on a travaillé 3 ans avec l'IFE, été remobilisés, réinscrits dans leur territoire. Et nous avons bon espoir que les contractuels ne soient plus des contractuels, mais que des enseignants postulent sur des postes que l'on a réussi à mettre à profil. Mais il nous a fallu 3 ans pour faire en sorte que ces postes-là soient des postes à profil, par exemple. On a bon espoir que le retour qui a été à l'origine de l'organisation de la recherche-action s'effectue avec un peu plus d'articulation entre ce qui se passe au sein du dispositif et ce qui se passe au niveau du collège. Donc, pour nous, c'était un principe d'action de faire une analyse, de faire un bilan et de trouver la modalité qui pouvait permettre de faire avancer un petit peu les choses. Donc, il n'y a rien d'innovant, il y a juste une remobilisation qui, sans doute, peut s'appeler pilotage. Je ne sais plus, je suis 1, 2, 3, 4, 5e principe d'action, faire en sorte que les regards se croisent. Je l'ai évoqué tout à l'heure avec l'interministériel, c'est une autre façon de le dire, mais se donner comme principe d'action que lorsqu'il y a accompagnement, dans la mesure du possible, c'est de faire en sorte que les enseignants, les CPE, les docs, les chefs d'établissement, les AED, voire les agents, en ce qui concerne un collège, soient ensemble à croiser leur regard sur une problématique. C'est-à-dire qu'on va un peu à l'encontre d'une formation catégorielle, mais plutôt vers une formation intercatégorielle. Et dernier principe, ce qui fait que j'ai commencé mon propos par vous dire qu'il ne s'agit que d'un témoignage. Ce que l'on cherche, c'est des micro-déplacements qui permettent sans doute, se dit-on, de faire en sorte qu'il y ait du pouvoir d'agir et non pas quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de vitrine, quelque chose qui puisse marquer. D'ailleurs, si vous allez sur le site de l'inspecteur, pardon, de la Direction académique des services de l'éducation nationale de l'ISER, vous n'y trouverez pas grand-chose, d'une part parce qu'on ne sait pas communiquer, et d'autre part parce que, voilà, vous l'avez constaté, la phase 2 du dispositif relais, elle ne donne pas lieu à quelque chose qui se partage. Par contre, elle a agi, je peux vous le dire, puisque cette année, on pourrait partager le compte-rendu de la phase 3, par contre, peut-être. Voilà. Alors, vous sentez bien que les premiers axes de pilotage que je vous ai listés, se saisir du prescrit, travailler dans l'interministériel, c'est plutôt, j'allais dire, le travail des pilotes, l'implication, l'action des pilotes. Mais quand je vous parle de l'analyse du terrain, quand je vous parle du croisement des regards, ça s'exprime plutôt dans la façon dont on peut décliner des accompagnements auprès des équipes. Alors, en ce qui concerne les accompagnements, il y a un principe que je ne vous ai pas cité, c'est faire en sorte que il y ait forcément, enfin, dans la plupart des cas, premier et second degré. On a toujours essayé de faire en sorte que l'ensemble du public qui concerne l'élève sur le département soit issu à la fois du premier et du second degré. Je ne reviens pas sur les dispositifs relais, on en a suffisamment parlé, mais c'est une des actions d'accompagnement que l'on a fait autour, évidemment, de cette problématique du décrochage. Deuxième action qui se conduit sur le département, que l'on a intitulée par plusieurs fois la lutte contre, contre les discriminations. J'aime pas bien le terme de lutte, mais là, pour le coup, on ne peut pas le dire autrement. On a travaillé, effectivement, à faire en sorte que, là encore, chef d'établissement, assistante sociale, inspecteurs, enseignants, voilà, toute la palette du public puisse être un peu outillée sur les façons de lire des pratiques qui peuvent être discriminantes et donc du même coup les amener à se questionner sur la façon dont ils développent leur activité professionnelle en ayant en arrière-fond cette vigilance à la discrimination. C'est particulièrement sensible sur les publics que nous évoquons là depuis ce matin. Une troisième action se développe sur le département à partir des territoires de certains dispositifs de réussite éducative. Je vous le disais tout à l'heure, le travail interministériel que nous pouvons conduire ou partenarial nous a conduit à mesurer que sur des territoires où on peut comptabiliser des exclusions, de l'absentéisme, on s'apercevait en même temps que les dispositifs de réussite éducative n'étaient pas forcément sollicités. C'est-à-dire que l'extérieur de l'école n'était pas sollicité par l'intérieur, on va le dire comme ça. Et depuis 2 ans, sur ces territoires-là, on essaye tout simplement de faire en sorte que les gens sachent, les personnels sachent ce qui se passe dans l'école et ce qui se passe hors l'école et comment l'un peut venir à l'aide de l'autre. Voilà. Dernière action qui a débuté seulement sur cette année, qui est centré sur le décrochage et la façon dont on peut comprendre la logique de l'ensemble des acteurs qui sont là autour. On travaille avec des équipes sur des territoires précis, bien sûr des territoires politiques de la ville et un territoire rural. Et l'idée est de faire en sorte que ces acteurs apprennent le travail de l'autre. Pour apprendre le travail dans la perspective de faire en sorte que, en comprenant mieux le travail que fait l'autre, alors je vais du même coup pouvoir peut-être échanger et en tous les cas arrêter de mettre tout dans le cartable de l'élève pour que l'élève s'en débrouille. Je vous donne un exemple. Sur des territoires de réussite éducative, il y a très souvent de l'aide aux devoirs. Voilà. Un élève qui part avec son cahier de texte dans son cartable, il le livre à l'animateur de l'aide aux devoirs. Que sait l'animateur de ce qui est écrit dans le cahier de texte? Comment il le prend? Comment il peut, lui, le prendre en compte? Qu'est-ce qu'on lit de ce que veut l'enseignant au travers du travail qui a été donné? Et en tous les cas, comment on peut faire en sorte qu'il y ait un peu plus de lisibilité pour que ce ne soit pas l'élève qui soit là en train de réexpliciter? Parce que s'il est capable de réexpliciter, alors il n'a pas besoin de l'aide au devoir, référé à ce que Jean Bernardin nous a dit ce matin, hein. Donc forcément, ces élèves-là, ils ne savent pas faire. Et en plus, on leur met un paquet de plus dans le cartable. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit les adultes qui arrivent à comprendre comment fonctionne l'autre pour que les actions soient en cohérence l'une par rapport à l'autre et non pas à la charge de l'élève. Sur cette action, je m'apesantis un peu parce qu'on a essayé d'identifier trois directions de travail plus spécifiques. La première, c'est certains lieux, certains territoires travaillent sur la relation aux familles. D'autres travaillent sur le renfort des apports culturels dans l'école et hors l'école. Et puis le dernier travaille sur le rapport au savoir et les pratiques pédagogiques au sein de l'école et hors l'école. En spécifiant ces entrées sur ces trois territoires, il nous a semblé, d'abord, je ne vous l'ai pas dit, mais ça va de soi, on part sur des équipes qui sont volontaires et les équipes, elles étaient plus ou moins attachées en fonction de leur histoire sur l'un de ces thèmes-là. Mais sur l'ensemble des thèmes, il nous semblait aussi, du même coup, essayer de se détacher de la primauté de l'école dans le travail partenarial. Essayer de faire en sorte, puisque notre volonté, c'est de faire en sorte que les acteurs comprennent le travail de l'autre, il ne fallait pas que les enseignants soient les donneurs de leçons, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà. Et c'était donc voilà, c'est pour ça qu'on a pris ces trois axes-là. Voilà, ça ne va pas bien plus loin dans les actions qui ont été, qui sont mises en place de ce côté-là sur le département. Après, moi, je voudrais vous dire que en 2 ans, c'est la 2e année que je suis sur ce département. Le vertige que j'évoquais tout à l'heure, comment pointer le décrochage dans 95 collèges, d'accord, comment anticiper ou repérer les signaux faibles que manifeste un élève dans les 964 écoles. Voilà, j'ai un peu le vertige par rapport à ça, et j'ai d'autant plus le vertige que ça fait 2 ans qu'on travaille et moi qui suis chargée du dossier de réaffectation des élèves après conseil de discipline, quand j'en suis à 40 doubles exclus cette année, par exemple, quand on en est à effectivement presque 300 signalements d'absentéisme, ce qui veut dire que derrière, les assistantes sociales reçoivent les familles, que les avertissements sont lancés. Voilà, c'est dérisoire. Mais heureusement que c'est dérisoire. C'est bon signe. Ça veut dire aussi peut-être que derrière, il y a un vrai travail qui est fait avec les familles de façon à ce que l'élève revienne. Alors, on ne résout pas le problème du décrochage parce qu'il revient et puis on a la chance de ne pas avoir le temps de compter les 3 demi-journées du 2e mois permettrait de faire la demande de suspension des allocations familiales. C'est vrai. Mais en même temps, c'est un travail de titan qui est derrière. Et quand on parle de personnalisation, c'est vraiment très difficile parce que il y a à la fois l'espace, le territoire, la multiplicité. Et la multiplicité des réponses. Donc, j'aurais aimé pouvoir dire, en trois ans, on a bien travaillé sur le département de l'Isère et du côté des résultats, ça se marque. Mais non, c'est pas le cas. Et je crois que c'est pas le cas parce que, d'une part, on n'a encore pas complètement tranché entre prévention et traitement. Et je ne suis pas sûre que les outils que nous évoquons en regard du décrochage dispositif relais, j'aurais pu dire DIMA, j'aurais pu dire ERS, j'aurais pu dire, ils sont multiples et variés. Est-ce que ce sont les outils, est-ce que ce sont ces outils-là qui peuvent permettre un raccrochage? Ou alors, s'ils permettent un raccrochage, quel est le profil de l'élève qui est en capacité d'utiliser cet outil ou de trouver bénéfice sur cet outil? Je vais le dire encore autrement, puisque nous avons évoqué les dispositifs relais. Je pourrais le faire de la même façon pour l'ERS. 8 semaines de dispositifs relais, d'ateliers relais, pour un élève de 4e qui a sans doute eu des signaux faibles au CP en disant, comment tu dis Jean, qu'est-ce qu'il dit Michael? Comment il
je
dit
passe,
je passe, d'accord. Et puis notre Michael, il est en dispositif relais en 4e pendant 8 semaines. Mais quel miracle pouvons-nous faire? Alors il y a 2 solutions. Ou le profil n'est pas bon et il faut qu'on utilise notre dispositif à d'autres profils, je ne sais pas. Ou alors c'est l'outil qui n'est pas bon et il faut fabriquer d'autres outils. Ceci dit, donc voilà, je vous livre un de mes dilemmes. Je ne suis pas complètement persuadée. Et c'est pas en termes de moyens que je le pense. Hein. C'est pas pour dire derrière, ben on va récupérer les moyens des dispositifs relais et comme ça fera un quart d'élèves de moins dans les classes de 6e des 95 collèges. C'est à peu près ça, hein, ce que ça pourrait faire. Donc, ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'efficacité. Deuxième dilemme, on nous l'a dit plusieurs fois, est-ce qu'il faut individualiser ou est-ce qu'il faut enseigner ce qu'ils ne connaissent pas? On l'a dit, vous l'avez dit dans vos remarques. Ces dispositifs, ils gèrent de l'exclusion. Et peut-être que la solution, c'est dans une meilleure inclusion. Mais alors, ça pose le problème des pratiques, ça pose les problèmes de valeurs, ça pose des problèmes de fonctionnement et d'organisation de l'école en général. Mais il faudrait qu'un jour on tranche entre les deux. En tous les cas, si on veut effectivement atteindre 9,5% en 2020 de sortie sans qualification, hein, c'est ce que nous a dit M. Tellard, peut-être qu'il faudrait aller vers ça. En même temps, autre dilemme, mais je viens de vous le dire d'une autre façon, est-ce qu'on protège le système ou est-ce qu'on aide les perturbateurs? Je ne suis pas sûre que nous ayons répondu à cette question. Voilà. Mais je ne suis pas là pour vous noircir ce ciel printanier. Parce qu'en plus, ma force est sans doute dans l'idée que, en tous les cas, mon travail, c'est de faire en sorte que l'ensemble des professionnels avec lesquels j'ai à travailler, ils trouvent les mobiles d'agir. C'est-à-dire la façon dont, effectivement, ils vont pouvoir vraiment réussir. On ne l'a pas dit jusqu'à maintenant, mais j'aimerais bien qu'on le dise au moins une fois. Un enseignant de dispositif relais qui voit son élève un peu mieux dans le collège, il a quand même un petit sentiment de satisfaction, de réussite. Un enseignant qui accueille un élève... voilà, un peu perturbateur, un peu difficile à gérer et qui parvient par des modalités diverses et variées à faire en sorte que cet élève bien remonte un peu sa moyenne, arrive à avoir un semblant de projet. Donc, l'ensemble des personnels a besoin de mobiles pour travailler. Et mon travail de pilote, c'est de faire en sorte que ces personnels-là trouvent les mobiles qui vont faire en sorte qu'ils réussiront dans leur action. Voilà, je ne vous ai pas livré des éléments très, très positifs et en tous les cas, sûrement pas des recettes. J'ai simplement essayé de témoigner le plus objectivement possible de cette question qui nous est difficile sur le département de l'Isère comme en bien d'autres lieux. Et puis j'espère qu'on se retrouvera dans un an ou deux avec des vraies solutions et des vraies organisations qui permettront effectivement de faire en sorte que nos élèves ne décrochent plus.